Prédication de Duurt Sikkens. Bonjour frères et sœurs. Vous connaissez sans doute le début de la Genèse que je vais lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu lui-même. Il planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit « Que la lumière soit ». Et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Il y eut donc un soir, et il y eut un matin. Mais une chose n'y était pas encore, c'est-à-dire la nuit. Non, la nuit n'est pas nommée. La nuit n'y était pas encore. Tout autour de la terre, il y avait une gigantesque voûte de cristal. Et Job appelle ceci une voûte de nuée, aussi solide qu'un miroir de fonte. Nous pouvons lire ceci dans Job, chapitre 37, verset 18. En hébreu, on parle de rakia, cette chose dure et ferme, d'où vient le mot firmament. Donc, on peut dire que la lumière éclairait tout le temps, que le soleil soit couché ou pas. Il n'y avait pas de nuit. Ce firmament était transparent et donc probablement composé de glace. Et lors du déluge, cette glace s'est rompue. Mais quand le jour se terminait-il? Le jour se terminait donc après le matin. Réfléchissons un peu. Le nouveau jour commençait vers midi. Mais on ne mentionne pas la nuit, parce que la nuit ne convient pas au jour. Nous voyons maintenant quelque chose de remarquable. Après les 6 jours vient le 7e, et Dieu dit alors, « Je vais me reposer ». Et Dieu se repose et jouit de tout ce qu'il a créé. Ou plutôt de tout ce qu'il a créé pour devenir, c'est-à-dire créé pour se développer. Ce n'était que le début, mais c'était déjà magnifique. Car Dieu ne plante pas d'arbres qui fleurissent déjà. Non, il est le Dieu des semences, des commencements, des bases. Zacharie l'appelle le jour des petites choses. Et Dieu interrompit son œuvre créatrice. Est-ce que ces jours ont duré 24 heures? On peut en discuter sans fin. Mais un jour peut durer infiniment. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu bénit ce 7e jour. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour spécialement béni. Remarquez que des 6 premiers jours, il est dit, il y eut un soir et un matin. Mais du 7e jour, on ne le dit pas. Donc, ce 7e jour continue. Il dure depuis une très longue période et il n'est pas terminé. Et pendant ce repos, Dieu voit que ce qu'il a créé est bon. et il s'en réjouit. En hébreu, cela signifie littéralement qu'il vit que tout était beau. Et c'est vrai, la nouvelle création est belle. Ce sont de beaux êtres humains. Mais pendant ce jour de repos, Satan est venu. Il est venu troubler le repos de Dieu. Et c'est de cette façon que la nuit est venue sur la terre. Et plus tard, lorsque le firmament se rompit au déluge, alors les nuits ont surgi. La nuit spirituelle était déjà venue sur la terre, c'est-à-dire les ténèbres, c'est-à-dire la mort. Dans la traduction grecque, on emploie le mot « skotos », qui signifie « ténèbres ». Et de là vient « skene », qui signifie « tente ». Ces mots ont la même racine. Les ténèbres recouvrent quelque chose comme le fait une tente. C'est donc un voile qui est venu recouvrir l'homme. C'est le voile de la mort. Donc, pendant ce septième jour, ce jour béni par Dieu pour le repos, la malédiction du malin est venue. Cette malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Le diable prit comme point d'attaque, comme cible, l'homme. Et tous les hommes depuis sont sous ce voile, car tous meurent. Mais il s'agit ici de la mort spirituelle, c'est-à-dire du voile de la nuit qui recouvre la pensée des hommes. C'est l'obscurité du deuil à cause de l'éternité perdue. Comme c'est affreux. Qu'a dû penser Dieu lorsqu'il a vu que l'homme devint tout à coup temporaire et séparé de la présence de Dieu? C'est pourquoi j'appellerai la Bible ici un journal. C'est le livre du jour. Mais malheureusement, il y a une page noire. La lumière du jour donne la clarté et la chaleur. Et c'est tellement bon de se réchauffer dans cette lumière et cette chaleur. C'est l'image de Dieu. Le visage de Dieu resplendit de lumière et d'amitié. Et il donne aussi de la gaieté. On peut dire que Dieu est joyeux quand il nous voit. Avez-vous déjà vécu le fait d'être l'origine et d'être la cause de la joie des autres? Les autres sont joyeux quand ils nous voient. Que fait Dieu lorsqu'il voit le fils prodigue? Il court à sa rencontre. Que pensez-vous d'un tel Dieu? Dieu est ému, il est joyeux quand il nous voit, et il court à notre rencontre. Telle est sa gaieté. La lumière du jour éclaire la terre. La lumière de Dieu nous éclaire, et elle nous met en lumière. Même si nous sommes encore habillés de haillons, même si nous sommes des invalides spirituels, Dieu va nous mettre en lumière. Il va nous rendre visibles. Et c'est une pensée qu'il faut creuser. Nous serons mis en lumière. La nuit, c'est l'absence de lumière. Et c'est la mort. La lumière, c'est l'amour de Dieu. Sans amour, il n'y a pas de vie, mais c'est la mort. Avez-vous déjà lu les prophéties à propos du jour du Seigneur? Si on les met bout à bout, car il y en a beaucoup, elles ne nous rendront pas précisément joyeux, car on en parle comme le jour de fureur, le jour terrible, le jour du jugement. On peut même être angoissé en lisant l'Apocalypse. Nous venons de lire que le jour du Seigneur est le jour du repos de Dieu. C'est le sabbat, c'est le septième jour, ou le jour des jours, ou encore le grand jour, ou le jour du jugement. Lorsque j'étais enfant, cette lecture me faisait frissonner, parce que je pensais que Dieu me punirait à ce jour-là. J'avais toujours peur de Dieu. Alors que Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Je vais mettre une séparation entre l'homme et le malheur qui lui est arrivé. Je suis venu pour juger, dit Jésus. Mais cela ne signifie pas qu'il va distribuer des punitions. Jésus dit, « Si tu crois en moi, je mettrai une séparation entre toi et ce qui ne te convient pas, ce qui ne te sied pas. » C'est cela le jugement. Et il commence auprès de la maison de Dieu. Jésus était la toute première maison de Dieu, parce que le Père habitait en lui. Et c'est par lui que cela a commencé. Ensuite vient la prochaine maison, et encore la prochaine maison. Et chaque maison est ainsi libérée de la malédiction du temps, de la malédiction du péché et de la mort. C'est un processus magnifique. Mais le jour du Seigneur a été vraiment mal expliqué. Le jugement où la séparation commence en nous. C'est un processus qui continue. Le jugement ou la séparation, donc, doit aussi passer entre nos bonnes et nos mauvaises pensées. Nous ne sommes plus sous le jugement, parce que nous sommes déclarés libres. La plus belle appellation de ce jour, c'est le dernier jour. Marthe, la sœur de Marie, emploie ce terme. Son frère Lazare était bien mort. Et Jésus dit à Marthe qu'il ressuscitera. « Oui, dit Marthe, je le sais, à la résurrection, au dernier jour. » Et c'est là que Jésus la prend au mot. Il dit « Mais je suis la résurrection. » Il aurait aussi pu dire « Je suis le dernier jour. » Parce que ce jour a commencé avec moi. Quel bonheur! Le dernier jour, nous sommes ressuscités. Nous sommes venus à la vie. Nous avons échangé le temporaire contre l'éternel. Et la nouvelle création a commencé. Quand Dieu nous regarde, nous sommes éternisés. Jésus dit « Oui, je suis la résurrection. » Et c'est pourquoi nous sommes des enfants de ce jour. Ce jour est le premier de la nouvelle création. En réalité, c'est le tout premier jour. C'est celui où Dieu dit « Que la lumière soit. » Le temps ne compte plus pour nous, car le temps, c'est du temporaire. Oui, l'homme a été soumis au temps, et Dieu est entré dans ce temps afin de rendre l'homme à nouveau intemporel, afin qu'il redevienne éternel. Nous sommes éternels. Dans le psaume 110, verset 3, nous lisons « Du sein de l'aurore te viendra la rosée de ton enfance. » Ou, selon une autre traduction, « Du sein de l'aurore, comme la rosée, je t'ai donné le jour. » Donc, qui est notre mère? Notre mère, c'est l'aurore. quelle belle mère, n'est-ce pas? Nous sommes nés à partir de lumière et d'amour. Comprenez-vous maintenant cette expression « lumière de la lumière » ? Nous sommes des lumières de sa lumière, des enfants de la lumière. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, nous lisons que lorsque Jésus pendit à la croix, et après avoir reçu à boire l'éponge de vin aigre, il dit « Tout est accompli ». Ensuite, il inclina la tête et remet son esprit. Et immédiatement après, Jésus va dans le royaume des morts. Au verset 31 de ce même chapitre, il est question des Juifs. Mais il s'agit ici des Judéens et non de tout le peuple juif. Je lis. Les Judéens donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand, firent à Pilate la demande qu'on leur rompît les jambes et qu'on les enlevât. La petite phrase entre parenthèses est de Jean. C'est Jean qui dit « car ce jour-là était grand, le jour de ce sabbat-là était grand ». Et le terme grec pour « grand » signifie plutôt « grandiose » ou « puissant ». C'est très impressionnant parce qu'il s'agit du jour des jours, le jour du jugement. Parce qu'ainsi, Jésus a conduit le jugement à la victoire. Le jour du jugement a commencé là. Quelle fête! Le dernier jour a commencé. Le jour du repos de Dieu est restauré. Parce que Jean parle de ce sabbat-là qui est si grand. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit que l'homme peut à nouveau entrer dans le repos. Dieu espère que chacun entrera dans son repos. C'est le sabbat céleste. C'est le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Tout est accompli. Jésus a vaincu la mort, et on peut dire qu'il a réussi à faire retourner l'homme dans le sabbat de Dieu. Quel jour pour l'humanité entière! Le temps est aboli et il est remplacé par aujourd'hui. Quand est-ce aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est toujours dans le royaume de Dieu. Lorsque le malfaiteur, pendu à la croix à côté de Jésus, dit « Jésus, souviens-toi de moi » quand tu seras arrivé dans ton royaume. » Jésus a dû être très surpris de tant de foi de la part de ce bandit. Et il lui répond, « Amen, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, le temps devient éternité. Il n'y a plus de temps. Voici le jour que Dieu a fait, et c'est le jour du Seigneur. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 7, il est écrit « Mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Même un enfant sait que le soir, la lumière faiblit et qu'ensuite la nuit tombe. Mais Zacharie dit que, justement, le soir, la lumière paraîtra. Jésus est entré dans le monde invisible, le ciel, le soir, et il y a passé la nuit, et il y a à nouveau apporté la lumière. Car dans le monde invisible, dans le ciel aussi, régnait le chaos et beaucoup de ténèbres. Dieu dit que la lumière soit en son Fils. Et la lumière a brillé dans les ténèbres, dans le royaume des morts. C'était une révolution. Les justes qui se trouvaient là dirent « Le voilà, celui qu'Abraham avait vu. » Parce que Abraham est appelé un prophète dans Jean, chapitre 8, verset 56. Il avait vu de loin le jour du Seigneur et il avait tressailli de joie. Et lorsque Jésus dit ceci, les gens le déclarent fou et ils voulurent le lapider. Au soir, la lumière paraîtra parce qu'il n'y aura plus de nuit. Il y aura un matin, tout comme au jour de la création. Le jour du Seigneur a mis fin à la nuit. On entend beaucoup de personnes parler de la fin des jours en des termes sobres. Mais cette fin signifie en fait le début de l'éternité, le début de la lumière. Donc, ne nous laissons pas aveugler par la fin des temps, mais gardons les yeux ouverts sur la lumière du début. Et ce temps-là a déjà commencé. Le jour du Seigneur a débuté lors de la résurrection. Et c'est tellement beau. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 22, verset 5, « La nuit ne sera plus. » Quelle perspective! Quelle fête pour l'humanité! Que la nuit spirituelle sera abolie. La ville céleste ne connaîtra plus de nuit. Et ce n'est pas nous qui habitons la Jérusalem céleste, mais c'est bien Dieu. Mais nous sommes cette Jérusalem céleste. Dieu habite en nous. Et il n'y aura plus de nuit en nous. La mort est partie. David a exprimé une prophétie deux fois. Au son de sa harpe, il chante dans le psaume 57, verset 9, et aussi dans le psaume 108, verset 3. Deux fois donc il chante « J'éveillerai l'aurore ». Mais David ne pourra rien faire lui-même, c'est Jésus qui le fera. Cette prophétie concerne Jésus. David veut accélérer la venue de l'aube. Jésus connaissait bien ces psaumes. Et son Père l'a ressuscité. Il a fait réapparaître la lumière, l'aube. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, nous lisons « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune ?» Resplendissante comme le soleil, troublante comme les apparitions. Il s'agit de la femme, dont on peut dire, comme dans Apocalypse, chapitre 12, verset 1, une femme vêtue du soleil. Quelle apparition resplendissante! Regardons autour de nous, elle arrive. C'est l'épouse de Jésus. L'épouse de l'agneau, belle comme l'aurore. Pierre dit qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu. Voyez 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. Mais comment pouvons-nous le faire? Avec une conduite sainte et avec piété. L'aube a débuté et elle progresse jusqu'au plein jour. Nous pouvons hâter cette venue. La misère augmente autour de nous. Et il n'est pas nécessaire de regarder la télévision pour s'en rendre compte. Quelles horreurs spirituelles! Quelle violence! Mais à nous de continuer sur le chemin de la sanctification. À nous de devenir de plus en plus lumière. On peut hâter ce jour en reflétant toujours plus clairement la lumière de la face de Dieu, en ayant part à la nature de Dieu, Nous devons briller dans cette génération corrompue et tyrannisée, parce que la terre soupire, vous savez, elle souffre. Jésus a dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça signifie donc que nous pouvons hâter ces jours en faisant briller notre lumière de plus en plus. Bien sûr, la résistance augmentera, mais persévérons et faisons briller notre lumière. Quand dans la Bible on parle du soleil, de la lune et des étoiles, il s'agit du Père, du Fils et des hommes. Un traducteur juif dit quelque chose de beau au sujet de Genèse 1, verset 15. Au lieu de luminaire, il parle de luminaire caché derrière des brumes. Dieu aurait donc dit que les luminaires cachés derrière les brumes deviennent visibles sur terre. Je ne sais pas comment cela s'est passé exactement, mais spirituellement parlant, je peux bien me le représenter. Pendant très longtemps, Dieu était caché aux yeux des humains par des brumes. Dieu est le soleil et Jésus est la lune. Beaucoup croient connaître Jésus, mais il y a beaucoup de fausses représentations de Jésus. Et quelle est la vraie ? Les étoiles sont également voilées par des brumes. Et le voile le plus important, c'est la mort. La mort est vaincue. Le voile est détruit. Et nous arrivons spirituellement à la lumière. Nous sommes dévoilés. Le mot grec pour dévoilement, c'est apocalypse. Apo signifie loin, loin d'eux, et calypso, c'est le voile. Donc loin du voile. Le voile est enlevé. Le livre de l'Apocalypse commence par « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donné. Jésus y est révélé. Plus nous serons dévoilés, plus le visage de Jésus-Christ et en même temps celui de Dieu deviendra visible. Je voudrais vous dire, laissez-vous dévoiler. Je vais citer quelques voiles que nous devons enlever. Mais d'abord, laissez-vous aimer par Dieu, car sans amour, vous ne viendrez jamais à la lumière. Je veux voir votre vrai visage. Je vais parler des voiles qui empêchent de voir le vrai visage, qui est aussi le visage de Dieu. Cela peut être la peur de se lier à d'autres personnes ou de se relier à un groupe. Cela s'appelle la peur de la liaison. C'est l'individualisme qui fait qu'on pense qu'on s'en sortira bien tout seul et qu'on ne peut se fier à personne, etc. Ou encore le voile de la suffisance. Celle-ci peut empêcher Dieu de se manifester à nous et de briller à travers nous. Ou encore la fantaisie. C'est en fait un mensonge. On invente toujours n'importe quoi. Mais de cette façon, on ne reflète pas non plus le visage de Dieu. Il est possible qu'au fond de nous-mêmes, nous ayons peur de nous montrer tels que nous sommes. Peut-être avons-nous eu des expériences négatives dans le passé. Peut-être avons-nous été agressés, naturellement ou spirituellement. Alors, il est logique d'être sur ses gardes. Les anxieux ne pourront se manifester que s'ils sont dans un climat, une atmosphère où l'angoisse disparaît. La jalousie est aussi un voile. Toujours comparer les autres avec soi est un voile devant le visage. Et ce voile doit être déchiré afin de voir le visage de Dieu. Peut-être aussi avons-nous un voile d'intellectualisme. Peut-être essayons-nous toujours de comprendre par la raison. Et peut-être qu'on arrive très bien à raisonner. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu, si on ne perçoit pas l'amour que Dieu a pour nous, on ne pourra pas non plus refléter cet amour. Et à quoi nous sert alors toute cette connaissance? Connaître Dieu, c'est l'unique chose importante. Apprendre à le connaître et ainsi le révéler aux autres. On peut être méfiant à cause de certaines expériences. Cela arrive, mais c'est aussi un voile. D'autres encore rient de tout. Ils cachent leurs problèmes sous des blagues, sous des bons mots. Mais en réalité, on ne peut pas surmonter les problèmes de cette façon, en se moquant. C'est aussi un voile qui recouvre le visage et qui empêche de voir la lumière. L'amertume aussi est un voile, et je pense que chacun de nous l'a connu. Il y a aussi le doute, le manque d'assurance, le manque de confiance en soi. Mais lorsque Dieu nous regarde, il nous dit « Je ne doute pas de toi, je te fais confiance. » Voilà qui nous donne de l'assurance. Il y a encore un voile que je trouve très grave. C'est lorsqu'on ne s'accepte pas soi-même et qu'on n'est pas heureux d'être ce que l'on est. Et la seule thérapie à ce problème, c'est de s'apercevoir que les autres nous apprécient, que quelqu'un est heureux quand il nous voit. C'est la seule façon de se convaincre de sa valeur. Moi-même, je n'étais pas heureux de ma façon d'être. Et pendant des années, ma femme me l'a appris. Et Dieu a renforcé cette joie. Un jour, pendant mes vacances en France, je visitais une église catholique. Il y avait là un cahier où les visiteurs pouvaient écrire leurs impressions. Beaucoup y exprimaient leur admiration pour les vitraux, les œuvres d'art, ou pour le silence qui régnait là. Et parfois, on y lisait aussi des prières, ou des demandes de prières, pour certaines intentions. En feuilletant ainsi ce cahier, je découvris une page blanche, où un enfant avait écrit en diagonale « Mon Dieu, merci pour moi !» Et c'était signé Claudette. J'en eus les larmes aux yeux. Voilà quelqu'un qui remerciait pour elle-même, pour le fait qu'elle existait. Je n'avais jamais lu ceci auparavant. « Merci pour moi !» Et j'ai pensé « Voilà quelqu'un qui ne doute pas d'elle-même. » Elle n'a pas ce voile devant les yeux. Ah, j'espère la rencontrer un jour, plus tard. Sur son lit de mort, David dit cette prophétie magnifique que nous lisons dans 2 Samuel 23. Celui qui gouverne les humains en juste, celui qui gouverne avec la crainte de Dieu, est pareil à l'aube. Quand le soleil se lève. David parle de Jésus, car Jésus est la lumière du soleil levant. Et dans Proverbe, chapitre 4, verset 18, il est prophétisé sur nous. Le sentier des justes est comme la clarté de la lumière qui va croissant jusqu'au plein jour. Nous pouvons donc dire que notre monde de pensée est comme la lumière du matin. Et ensuite, la prophétie dit que notre lumière va aller croissant jusqu'au plein jour. Et ceci, c'est le jour du Seigneur. Pierre a une image très forte que nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Nous savons que Jésus est l'étoile du matin. Bien que le diable réclame le nom d'étoile du matin et aussi le nom de fils du jour pour lui-même. Mais nous verrons que ce sont des mensonges, parce que le diable n'a pas d'amour. Quand les brumes et les voiles s'évaporeront grâce à la lumière du soleil, nous verrons comme en plein jour. Celui qui se sait aimé et qui se sent aimé, celui-là n'a plus le visage voilé. On peut alors voir Dieu face à face, se voir et se savoir aimé. Vous comprendrez ce que je vais vous dire en vous souhaitant à chacun un bon matin et un bon jour, dès maintenant et jusqu'en l'éternité. Prions. Père, merci, parce que par votre amour, grâce à votre amour, nous venons à la lumière, de sorte que vous deveniez visible dans toute votre gloire. Amen. Moi-même, je n'étais pas heureux de ma façon d'être. Mais au cours des années, ma femme me l'a appris. Et Dieu a renforcé cette voie. Pendant mes vacances en France, je visitais un jour une église catholique. Et il y avait là un cahier où les visiteurs pouvaient écrire leurs impressions. Beaucoup y avaient exprimé leur admiration pour les vitraux, les œuvres d'art, ou le silence qui régnait là. Et parfois, on y lisait des prières, ou encore des demandes de prières, pour des intentions. En feuilletant ainsi ce cahier, j'y découvris une page blanche, où un enfant avait écrit en diagonale « Mon Dieu, merci pour moi !» Et c'était signé Claudette. J'en ai eu les larmes aux yeux. Voici quelqu'un qui remerciait pour elle-même, pour le fait qu'elle existait. Je n'avais jamais lu ceci auparavant. Merci pour moi. Et j'ai pensé, voilà quelqu'un qui ne doute pas d'elle-même. Elle n'a pas ce voile devant les yeux. Ah, j'espère bien la rencontrer un jour, plus tard. Sur son lit de mort, David dit cette prophétie magnifique que nous lisons dans 2 Samuel 23. Celui qui gouverne les humains en juste, celui qui gouverne avec la crainte de Dieu, est pareil à l'aube quand le soleil se lève. David parle de Jésus, car Jésus est la lumière du soleil levant. Et dans Proverbe, chapitre 4, verset 18, il est prophétisé sur nous. Le sentier des justes est comme la clarté de la lumière qui va croissant jusqu'au plein jour. Nous pouvons donc dire que notre monde de pensée est comme la lumière du matin. Et ensuite, c'est une prophétie, notre lumière va aller croissant jusqu'au plein jour. Et ceci, c'est le jour du Seigneur. Pierre a une image très forte. Il dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, « Et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. » Nous savons que Jésus est l'étoile du matin. Bien que le diable réclame le nom d'étoile du matin et le nom de fils du jour pour lui-même. Mais nous verrons que ce sont des mensonges, parce que le diable n'a pas d'amour. Quand les brumes et les voiles s'évaporeront, grâce à la lumière du soleil, nous verrons comme en plein jour. Celui qui se sait aimé et qui se sent aimé, celui-là n'a plus le visage voilé. Celui-là peut alors voir Dieu face à face. Se voir et se savoir aimé. Vous comprendrez ce que je veux dire en vous souhaitant à chacun un bon matin et un bon jour, dès maintenant et jusqu'en l'éternité. Prions. Père, nous vous remercions parce que, par votre amour, nous venons à la lumière, de sorte que vous deveniez visible dans toute votre gloire. Amen.